Histoire et religion, une émission avec Bernard Vachereau, curé de Caylus. Est-ce le fait qu'il y a un débat lancé dans le pays sur la laïcité, la place peut-être des religions dans la société civile, tout ça, ou le fait que nous avons un curé à Caylus qui est passionné d'histoire, et probablement aussi d'histoire des religions, l'occasion était trop bonne pour ne pas lui laisser l'occasion de s'exprimer au micro sur des questions que sa passion d'historien est allée fouiller très très loin. Bernard Vachereau, bonjour.
Bonjour.
On parlait depuis un petit moment de profiter de votre voix pour éclaircir quelque chose qui, à moi, me paraît obscur. Par exemple, on a entendu dans l'actualité des chrétiens coptes en Égypte être, moins qu'on puisse dire, bousculés par d'autres adeptes d'autres religions. On entend souvent parler d'églises orthodoxes. Je me suis dit, c'est peut-être l'occasion d'aller tirer un petit peu le fil du savoir.
Ben, tout d'abord, salut à toi. Et puis, bonjour à tous ceux qui ont le malheur de m'écouter, les malheureux. Bon, qu'ils soient les bienvenus. Oui, effectivement, disons que connaître les religions est très important, puisque il s'agit non pas de porter des jugements, disons, sur telle ou telle pratique extérieure qui parfois nous choque ou nous étonne. Mais il s'agit d'abord de comprendre le cœur des hommes et le désir de ces hommes au travers des expressions religieuses. Alors évidemment, le christianisme, par exemple. Bon, qu'est-ce que le christianisme ? A-t-il été fondé par Jésus-Christ ou par saint Paul ?
Alors, première question, question bleue, donc.
Oui. Eh bien, justement, on dit que le christianisme, et je pense qu'on a raison, en tant qu'institution religieuse sociale, a été réellement architecturée, d'une certaine manière, par saint Paul. Mais le véritable fondateur, le fondateur moral, spirituel, est un personnage étrange qui était juif, qui s'appelait Yeshua. Et en tant que juif, il était de la lignée de David, il s'est appelé Yeshua, et il a été plus tard christifié. Qui était cet homme étrange appelé Christ ?
C'était un gars, déjà, il ne voulait pas être charpentier comme son père. On a bien compris ça.
N'oublions pas que les charpentiers dans l'Antiquité étaient considérés comme des métiers nobles. Et les charpentiers...
Encore aujourd'hui, hein.
Ah, tout à fait, tout à fait. Il y a même les compagnons charpentiers depuis le haut Moyen-Âge, bon, etc. C'est un vaste sujet. Les charpentiers étaient un métier noble. On disait même parfois que c'était un métier royal. Ce qui est intéressant, d'ailleurs, au point de vue de l'exégèse biblique sur les origines du Christ. Mais nous aborderons ce problème. Alors, qui donc fut Jésus-Christ ? Eh bien, au XIXe siècle, deux hommes se sont penchés, de manière très différente l'un de l'autre, sur ce problème. D'une part, nous avons le grand et célèbre Ernest Renan, qui, entre 1863 et 1881, avait rédigé une série d'ouvrages intitulés « Les origines du christianisme », et l'un d'entre eux était « Vie de Jésus ». Ernest Renan, d'origine bretonne, puis universitaire à Paris, s'est penché avec beaucoup de connaissances. C'était un ancien séminariste, ne l'oublions pas.
Mais darwinien quand même.
Et comment, mon cher ? Ce qui lui amena d'ailleurs plus tard quelques complications ecclésiastiques. Mais bon, nous n'en sommes plus à une près. Et puis, il y a eu un autre écrivain, celui-là orthodoxe russe, qui s'appelait Nicolas Notovitch, qui, en 1887, eut l'idée de partir en Inde, ainsi qu'au Tibet, où il pensait de retrouver des documents secrets sur les origines ou le passage du Christ au Tibet. Et il écrivit une vie inconnue de Jésus-Christ. C'est pour dire que le XIXe siècle a été très riche historiquement en recherche sur le Christ, sa véritable nature, ses origines. Alors disons que la question de la nature du Christ, est-il homme? Est-il Dieu? Est-il seulement homme? Est-il seulement Dieu? Ou bien est-il Dieu et homme? A été archi-débattu. Déjà, Saint Matthieu au chapitre 16, dans les versets 13 à 20, et notamment au verset 15, pose la question, « Et vous, qui dites-vous que je suis ?»
Ah, c'est intéressant, ça. C'est presque, presque un sondage.
Ah oui.
Je rappelle qu'on écoute CFM, hein, pas de panique.
Oui.
Et on est avec le père Bernard Vacherot qui nous fait quoi de l'histoire de la religion. Mmh. Alors, et vous, qui dites-vous que je suis?
Et vous, qui dites-vous que je suis? Eh bien, le Pierre répond, tu es le Christ, le Sauveur. Bon. Alors, au verset 20, il y a une réaction extrêmement curieuse que nous allons approfondir du Christ. Il dit, Saint Matthieu dit, « Alors il, le Christ, commanda sévèrement aux disciples de ne pas dire qu'il était le Christ. » Alors c'est un ordre des plus curieux de sa part. Pourquoi c'est interdit ? Il faut savoir que Saint Matthieu a fait deux rédactions de son évangile. La première, la plus ancienne, a été en araméen. Ensuite, dans les années 65-70, il a réécrit son évangile, mais en grec, cette fois-ci. Or, en grec, le terme de Christ vient de Christos, ce qui veut dire en hébreu Mashiach, que l'on traduit par Messie. Alors donc, et c'est l'équivalent du terme araméen qui est Messia, si au lieu du Shin hébreu, Messia. Alors le terme araméen Messia se traduit par oint, l'onction. Laquelle onction était réservée au roi, mais aussi à ceux qui, par exemple comme David, étaient les élus de Dieu pour devenir le roi du peuple d'Israël.
Alors attendez, attendez,
oui,
que je comprenne
très
bien.
Très intéressant.
Que je comprenne bien,
oui.
les Juifs attendaient le Messie.
Tout à fait.
Hein, on entend quelquefois le Sauveur.
Oui.
Alors le Sauveur de quoi?
Alors n'oublions pas que toute l'histoire du judaïsme, surtout, allez on va dire à partir du voyage d'Abraham, à partir des années grosso modo 1800, avant Jésus-Christ, pour aller en Égypte, toute l'histoire du judaïsme a été traversée par, d'une part, le nomadisme, et de l'autre, par un sédentarisme, mais très marqué par l'occupation. Ils ont été, alors pour certains, pas pour tous, il ne faut pas exagérer, retenus esclaves en Égypte, d'autres ne l'étaient point, bon. Puis, plus tard, ils ont été retenus, pris esclaves en Israël et ils ont été colonisés par les Grecs. Bon, on sait par exemple qu'en 325 avant Jésus-Christ, bon, le pays était complètement colonisé par la Grèce. Et puis après, ils ont été colonisés par les Romains. Donc, il y a un aspect politique.
Donc l'idée de sauveur, c'est libérateur.
C'est très lié à l'aspect politique du libérateur. C'est exact. Hein. D'ailleurs, Judas plus tard, on peut tout à fait l'excuser, car au fond, ce qu'il attendait, lui, c'était un libérateur politique. Et il est quelque part un peu déçu de voir qu'il s'agit d'une libération spirituelle et non pas d'une libération politique. Hein. Alors, là, je fais un petit aparté, parce que à partir du 1er siècle avant Jésus-Christ, le terme de Messie a bien désigné l'onction du Sauveur
royal
d'Israël. Absolument. Et alors, il faut se rappeler qu'en 63 avant Jésus-Christ, Pompée, qui était un grand général de l'armée romaine et aussi un homme politique, Pompée a vaincu le Jérusalem. Mais il n'était pas seul. Ayant vaincu Jérusalem, il fallait s'assurer que le peuple dépende bien de l'Empire romain. Et il y a eu un personnage très peu connu, dont on parle malheureusement trop peu, un certain Sosius, qui en 37 a pris, avant Jésus-Christ, a repris Jérusalem et le Temple. Faut le savoir, hein. Alors, chose pittoresque, je trouve, Sosius était romain. Bon, déjà, les pauvres juifs et les pauvres chrétiens allaient se trouver aux prises avec Rome. Hein. Alors, on pense au vers de Racine, Rome, Rome, unique objet de mon ressentiment.
On est toujours avec le père Bernard Vachereau, curé à Caylus, mais historien passionné d'origine des religions. On parle de Jésus, comment est-il devenu leader, j'allais dire, un leader charismatique d'un combat, en tout cas attendu par les Juifs pour libérer du joug romain, puisque
voilà.
On est dans cette période-là.
Et alors justement, Sosius a été mis au pouvoir. Et il y eut de son temps Hérode, le fameux Hérode. Alors, Hérode était lui-même juif, mais complètement inféodé aux Romains.
Un collabo.
À 100%, si possible, même à 200%. Mais très habile, pour ne pas s'aliéner les Juifs, que fait-il? Il décide la destruction du vieux temple, mais pour le reconstruire en nouveau temple. Hein.
Alors, à cette époque-là, qu'on comprenne bien, quand on dit juif, Il y a des chefs religieux.
Absolument.
Avec qui le gouverneur, aux ordres de l'envahisseur romain, il y a des négociations.
Tout à fait. Et alors, justement, celui-là...
Alors, il n'y a pas de débat sur la laïcité à ce moment-là.
Ah non. Mais d'ailleurs, la mentalité du Proche-Orient, voire même du Proche-Orient, région Asie, ou bien alors des pays d'Afrique du Nord, ne comprend pas le terme de laïcité comme nous on le comprend.
Bon, à l'époque, qu'on comprenne bien, les Romains ont des religions polythéistes, et la seule religion monothéiste de l'époque, ce sont les Juifs.
Absolument.
Dans le monde entier.
À l'exception du dieu Aton, en Égypte.
En Égypte.
Oui. Or, n'oublions pas que Moïse a été en Égypte. Et il y a eu, au IIe siècle avant Jésus-Christ, un prêtre égyptien qui s'appelait Manéthon et qui, dans ses mémoires, certifie que Moïse aurait été, alors là je place des conditionnels, hein, aurait été grand prêtre d'Aton, ainsi que son frère Aaron. Il est certain que Moïse était d'origine juive, de par sa mère, de par son père, était d'origine juive.
Mais a eu une éducation privilégiée au sens des maîtres égyptiens.
Voilà. Alors, il connaissait le monothéisme par le judaïsme, et il a très bien pu approfondir le monothéisme par les Égyptiens. Hein ? N'oublions pas que la religion égyptienne a, disons, formé religieusement beaucoup d'hommes. Ainsi, au 5e siècle avant Jésus-Christ, le grand philosophe et intellectuel grec Hérodote a été initié en Égypte au mystère d'Isis et d'Osiris. Il le dit d'ailleurs dans son célèbre voyage en Égypte, où il dit qu'il n'a pas le droit de parler de ces mystères. Ce qui prouve bien qu'il était initié.
Bon, là, je vous ai entraîné dans un grand aparté. Revenons à la période contemporaine de Jésus.
Oui.
Les Romains sont polythéistes, la religion juive est monothéiste, même s'il y a pu y avoir des influences au niveau des lettrés. Tout ça, déjà, c'est la religion du livre.
Tout à fait.
Biblos, le livre.
Tout à fait.
Ouais, d'accord.
Bravo. Pour Biblos.
Alors, on attend le Messie. Le sauveur, le libérateur, on est dans une période d'occupation romaine.
Ah oui, et qui est allée très loin, l'occupation. Puisque quand Hérode fait reconstruire donc le temple, il le fait reconstruire dans le style grec par des architectes grecs. Vous pouvez imaginer la fureur des princes, des prêtres qui voulaient une architecture à la mode de l'ancien temple du roi Salomon, et disant, mais quel scandale! On va finir par adorer les dieux grecs. L'occupation allait très loin, très très loin. Pour les juifs de l'époque, c'était très grave ce problème.
On va clôturer, si vous voulez bien, parce que je vois bien que vous allez enchaîner, on va clôturer cette première partie sur quand même essayer de cerner la question, comment Jésus pouvait-il être dangereux alors qu'il n'était pas né? Parce que, je ne sais pas, moi, le massacre des innocents, c'était bien qu'on craignait la venue d'un futur roi des Juifs qui pourrait les mener à une guerre de libération par rapport à l'occupation romaine.
Tout à fait. On le craignait, d'abord l'atmosphère politique et religieuse de l'époque s'y prêtait largement, plusieurs mouvements existaient déjà, des sectes religieuses, prenons par exemple Qumran avec les Esséniens, les Zélotes d'un côté, les Sadducéens d'une part, les Pharisiens d'autre part, tout ce monde s'agitait, et refusait, contestait violemment les princes des prêtres, du temple surtout, qui eux-mêmes n'avaient pas une position très nette, ils avaient une position ambiguë, partagée entre la nécessité de collaborer avec l'occupant romain et partagée avec leur refus de cette culture romaine. La situation pour eux était délicate. En plus, il y avait les prophéties anciennes de l'Ancien Testament, dont le fameux songe, le songe de Jessé, qui disait que du haut de la dernière branche de l'arbre auquel il rêvait, l'arbre aux 12 branches, viendrait le Sauveur, le Messie, le Meschia, l'Emmanuel. Donc, tout cela s'agitait. En plus, n'oublions pas que les Juifs qui avaient été en exil à Babylone, bon, et qui en étaient revenus au VIe siècle, bon, les Juifs en exil à Babylone avaient connu les mages. Or, les mages, la mageia, ce qu'on appelle en grec la magie, ne veut pas dire du tout la sorcellerie comme on l'imagine aujourd'hui, du tout, du tout, du tout. Ça voulait dire la science, la connaissance. Or, les mages assuraient, et ainsi que les prophètes, assuraient qu'il y aurait un sauveur, qu'il y aurait un personnage, disons, dont on ne savait pas le nom exactement, mais qui viendrait. Et on parlait d'un astre. Donc on y mélangeait l'astrologie, car les mages étaient des astrologues, ne l'oublions pas. La science, à l'époque, était mathématiques, astrologie, histoire et philosophie.
Alors, on était avec le père Abachereau, on n'a pas encore vu arriver Jésus, mais on a commencé par petites touches à cerner un petit peu l'ambiance de l'époque dans laquelle il va émerger. On se retrouve la prochaine fois, on va encore rajouter quelques touches pour parler de ça. Merci Bernard Abachereau. Histoire et religion, une émission avec Bernard Vacherot, curé de Caylus.